pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf. Troisième cassette, deuxième face, page 95. Le prisonnier gémit. On voyait maintenant une lueur de frayeur dans ses yeux. Il secouait nerveusement la tête. Nels empoigna son fusil cassé. Il avait vu la trappe se soulever un peu, de quelques centimètres seulement, puis retomber. Le prisonnier avait levé la tête. John le vit jeter un coup d'œil du côté de la trappe et ouvrir la bouche. D'un bond, il tomba sur lui et lui colla la main sur la bouche, juste à temps pour l'empêcher de crier. « Du calme, petit bonhomme. Il ne faut pas déranger les taupes quand elles travaillent. » La trappe fut à nouveau soulevée, tel un pont suspendu qui doit laisser passer un bateau. Un bonnet de poils gris surgit. « Il paraît doux et chaud, pensa Nels, mais il a sûrement besoin d'être un peu battu à cause de la poussière. » Hampus exécuta brillamment sa dernière mission. La crosse fendue craqua. Un nuage gris monta du bonnet, tandis que ce qui était dessous s'affaissait. On entendit un gros soupir. « C'est bien ce que je pensais. Il était plein de poussière. » Nels ricana et jeta un coup d'œil dans le trou. « Viens m'aider, John. Il me semble très lourd. » Le trousseau de clés. « Prisonniers, vous deux, » souffla Nels après avoir allongé l'homme gentiment à côté de son camarade. « Il n'en reste plus que deux maintenant. » Le nouveau était un véritable géant. Il avait un profil d'aigle et une barbe noire de capitaine de la marine. Il marmottait sans arrêt pendant qu'on l'attachait avec des chaînes trouvées sous le comptoir. « Il a un crâne blindé, » dit John. « Tu ne crois pas qu'il sera ravi en se réveillant ?»« Et nous avons récupéré un beau fusil. » Nel jubilait. « Un véritable tueur d'élan. » « Tu ne chanterais pas ses louanges si tu avais fait sa connaissance quand tu étais au premier étage, » lui rappela John. « N'oublie pas que c'est le tireur d'élite que nous avons devant nous. » « Tu as raison, John. Et il a essayé de me tuer. Si j'y avais pensé plus tôt, je crois que j'aurais frappé un peu plus fort. » « Pas de clé non plus, Nels. Je l'ai fouillé. Ah, mille diables. Nous allons devoir engager l'opération Patatrac. » « L'opération Patatrac, mais tu es fou. Non, j'ai une idée. Tu vois la colonne au milieu de la pièce. Elle tient à elle seule tout le premier étage. Elle n'est pas très solide. Quand on remue là-haut, elle vacille. Elle est fendue sous le plafond. Ah, je vois où tu veux en venir. Mais que deviendrons-nous quand tout s'effondrera ? Es-tu aveugle, John ? Tu ne vois pas le comptoir du bar ? Tu en as parlé toi-même comme d'un abri sûr. Si nous nous mettons dessous, il peut pleuvoir une vingtaine d'étages sans que nous en soyons incommodés. Mais comment la faire tomber ? Comment l'approcher ? Je ne suis pas insensible aux balles de mitraillette. Personne n'aura besoin de s'approcher, John. Nous la ferons tomber à coups de fusil. Trois ou quatre coups suffiront. Bon, je suis d'accord. Mais réfléchis. S'ils tombent sans se faire de mal, oh, ils auront au moins quelques bleus. De combien de temps disposons-nous ? 9 minutes. Ils sont en train de se concerter. Le silence règne depuis que nous avons recueilli leur ami le ver de terre. Ils sont peut-être souffrants. Chut, John, c'est leur dernier appel. Je crains qu'ensuite ils ne se sauvent. Oh, les gars, écoutez ! Il faut vous rendre vite. Catastrophe! Plus que 8 minutes! 8 minutes et demie, imbécile! Nous savons lire l'heure! Mets-toi à l'abri, John. Ça va barder. 3 coups de feu successifs firent trembler la maison. Puis on entendit comme un gros soupir venant du plafond. Ce soupir fut suivi d'une série de craquements et de grincements. Tous ces bruits se fondirent ensuite en un fracas épouvantable qui couvrit tous les autres sons. Le plafond tomba comme une cataracte, entraînant une partie des murs. Le comptoir du bar fut entièrement enseveli sous un amas de poutres et de planches. Un tremblement de terre n'aurait pas fait mieux. Dès que le fracas fut apaisé, la voix de Nels résonna sous le comptoir. « Ça va, John ? Sors des décombres !»« Tout va bien, Nels. Il n'y a que quelques plâtras qui me gênent un peu. Repoussant les plus grosses planches, ils se relevèrent vivement. Ils se trouvaient devant un curieux spectacle. La maison s'était effondrée. Même la porte d'entrée était abattue. Il pleut, Nels. Tu n'aurais pas un parapluie, par hasard?
Plaisante pas, mon vieux. J'ai terriblement mal aux pieds. Aide-moi à déblayer un peu. Nous les tenons.
Le canon d'une mitraillette pointait entre les planches. Sous l'arme gisait un homme. Un petit homme pâle et chauve. Il avait perdu son bonnet. On voyait qu'il avait reçu un choc car il marmottait sans arrêt. Nels le fouilla tandis que John dégageait l'autre.
Quel gros gaillard, halta John. Rond comme un fromage. Il doit faire de beaux rêves car il rit et grimace sans discontinuer.
Ça arrive souvent quand on reçoit un bon coup sur la tête, souffla Nels.
Pas de clé ici non plus. Où en sommes-nous, John? 4 minutes et demie, Nels.
Ah, voilà des clés, tout un trousseau. Viens, John, laisse les prisonniers. Emporte seulement les armes.
Sais-tu où on a mis la boîte? Il s'agit plus de flâner maintenant. Ils retrouvèrent le comptoir. La machine infernale était là. Tic-tac, tic-tac, disait-elle. Tic-tac. La main de John tremblait en sortant le trousseau de clés.
Zut, elles se ressemblent toutes.
Essaye, John, l'une après l'autre. Des gouttes de sueur leur tombaient du front. La première n'allait pas. L'heure, John, l'heure. 3 minutes. Penche un peu la boîte, Nels. C'est ça. Diable, celle-ci non plus. Tic, tac, tic. La quatrième clé du trousseau entrait presque, mais pas tout à fait. Quand ils voulurent la retirer, elle se bloqua.
Ça y est, Nels, je ne peux plus la sortir.
Ne tire pas trop fort, John. Manie-la avec douceur. Doucement, doucement. Je l'ai, Nels. Il reste 2 minutes. La suivante. Elle ne va pas non plus. Il nous en reste 5. Et si ce n'était pas ce trousseau, tu as fouillé toutes les poches?
Une seule à la fois, Nels. Une seule. Celle-ci ne marche pas. 1 minute.
John frissonna. Le trousseau tomba. Il glissait sur une planche et approchait d'un trou noir. Grand Dieu! Nels bondit comme un ressort. Il saisit les clés juste au moment où elles allaient disparaître. Et maintenant, nous ne savons plus où nous en sommes. Prends-en une au hasard, John. C'est notre dernière chance. John saisit le trousseau de clés, hésita une fraction de seconde. Il voyait mal, ses yeux étaient embués. Sans même regarder la clé qu'il tenait, il chercha en tâtonnant le trou de la serrure. La clé y entra avec un faible grincement. Elle tournait. Une seconde plus tard, le couvercle était enlevé. Il se trouvait devant un labyrinthe de bouts de fil et d'étranges tubes d'acier au milieu desquels brillait un petit cadran rond avec une aiguille. C'est de là que venait le tic-tac. L'aiguille était à quelques millimètres d'une marque rouge qui traversait le cadran. John était complètement affolé. Sa raison ne lui était plus d'aucun secours. Que devait-il faire? Un seul geste pouvait les sauver, mais lequel? Ici! Nels lui indiqua un point précis. Son doigt tremblait. Un fil noir se dirigeait vers le cadran et se terminait par un petit bouton. John cligna des yeux et arracha le bouton noir. Le tic-tac s'arrêta. La côte Esquimaux. Dans la baraque numéro 2, Joseph Grumman lisait, assis. Sa table était couverte de journaux. La vue splendide sur le fleuve et les montagnes disparaissait derrière un monceau de feuilles imprimées. Il grommelait très irrité. On n'en finirait donc jamais avec ces articles sur John Cross, Nels Van Berg et la mine de Kantishna. Kantishna, l'endroit le plus beau, le plus féerique de la Terre, le voilà transformé maintenant en camp militaire. La vieille ville de rêve est devenue une caserne et des colonels y piétinent les tendres fleurs d'été. Désormais, on n'a plus le droit de transporter le minerai à bord de Junkers. Il faut des hélicoptères, des Sikorsky du dernier modèle, avec une mitrailleuse à l'avant et une mitrailleuse à l'arrière en plus. L'histoire de la machine infernale n'est hélas vieille que de 15 jours. L'Alaska est un grand pays et il est tout à fait naturel que de temps à autre, des événements importants s'y produisent. Mais pourquoi fallait-il que cela tombât justement sur lui et sur sa mine? Il y a tant d'autres exploitations sur lesquelles aucun espion n'a jamais jeté le moindre coup d'œil. Qui sait? quand Ishnam n'est que le commencement. Il faudra peut-être bientôt des forces militaires considérables si l'on découvre de nouvelles richesses dans les montagnes et les forêts. Le vieil Alaska, avec ses chasseurs de fourrures, ses chercheurs d'or et ses aviateurs de brousse, n'existera plus que dans la légende. Grumman balaya de sa table la pile de publications avec un grognement indigné. Les journaux se répandirent sur le sol. Des titres à sensation lui sautaient aux yeux. À 10 secondes de la mort, quelques millimètres seulement les séparaient de la catastrophe. Bah, on est toujours à 10 secondes de la mort, surtout quand on se trouve dans un avion. Au bord du fleuve, Nels et John pêchaient à l'aide de leurs médailles. Ils avaient reçu tous les deux une jolie étoile émaillée pour leur brillante conduite à Kankishna. Mais comme à pas, elle se révélait médiocre. Ils avaient presque envie de les renvoyer au président et d'en demander de plus efficaces. Depuis son aventure, John transportait toutes sortes de marchandises. Un jour de l'essence, le lendemain de la farine et du sucre, des barils de poisson et parfois même des vaches. Pas une seule journée ne ressemblait à la précédente. Ayant acheté le Junker, Joseph Grumman tenait à en tirer le plus grand profit possible. Nels Swanberg avait été définitivement engagé par lui comme homme à tout faire. Il chargeait les avions et travaillait sur le terrain. La plupart du temps, il pêchait. « On s'ennuie à McGrath, » disait-il en bâillant. « Il ne se passe jamais rien. J'aurais dû rester à Kankishna comme maréchal des logis. Toi, te mettre au garde-à-vous à longueur de journée ? On m'a dit que les officiers supérieurs fourmillent là-haut. Officier supérieur, comme si un maréchal des logis n'était pas un officier supérieur. Si on doit se mettre au garde-à-vous, c'est bien devant le maréchal des logis Swanberg. Les marques distinctives de mon grade, j'en aurais collé partout, sur la poitrine, sur le dos et même sur la brouette. » Vieux farceur, à propos, as-tu vu dans le journal ? Notre machine infernale a été examinée. C'était l'appareil le plus dangereux qu'un cerveau humain ait jamais inventé. Nous étions à 9 secondes et demie de l'explosion quand nous l'avons arrêté. 9 secondes et demie, Nels. C'est moi qui te le dis, John. Notre lit était déjà fait pour l'éternité, tout prêt à nous recevoir. Et les 4 types que nous avons capturés, Nels, ils me font pitié. Ils ne reviendront plus jamais à Kankishna. Ils avaient un idéal. Chacun fait de l'héroïsme pour sa cause. J'ai lu dans les journaux qu'ils étaient venus de Fairbanks en avion-taxi. Ils se faisaient passer pour des chasseurs et disaient que la machine infernale était une boîte de cartouches. L'avion les avait déposés au bord du lac Toklat. T-O-K-L-A-T. De là, ils ont fait 80 km à pied jusqu'à Kankishna. Et tout ça pour se faire coffrer. Joseph Grumman s'approchait du fleuve. Il s'installa près des pêcheurs et observa quelque temps leurs vains efforts. « Hum !» grommela-t-il. « J'aurais dû vous le dire dès le début. Ces médailles-là ne vous seront jamais très utiles. Des médailles, ça se gagne à la guerre, mais pas dans un pays calme et paisible comme l'Alaska. Les saumons l'ont bien compris. Et notre aventure de Kankishna, tu ne trouves pas cela suffisant ?»« Eh bien, je vais te dire, Grumman, si nous n'avions pas été aussi adroits de nos mains, le mont McKinley ne serait plus à sa place aujourd'hui. Et peut-être bien mieux, tout l'Alaska ne formerait plus qu'un immense cratère. » « Sacré gamin !» dit Joseph Grumman, et il écrasa un moustique sur son front. « Nous avons une commande, les gars. » « Quel malheur !» soupira John, juste au moment où je vois un énorme poisson qui vient lécher l'appât. Le médecin départemental de Nome, N-O-M-E, veut louer le Junker et un pilote pour une semaine environ. Il a l'intention de faire une tournée dans les villages esquimaux de la côte. Le médecin ne les visite que très rarement. Il veut organiser une salle de consultation dans la carlingue. Voilà pourquoi il lui faut un grand coucou. John rangea sa ligne si vite que la médaille eut bien du mal à suivre. « Peux-tu démarrer dans 1 heure, John ? Je fais le plein en attendant. »« Oh, je serai prêt dans 1 quart d'heure, mon oncle. Enfin, un peu de mouvement. »« Dis, Grumman. » Nels leva un regard suppliant sur son chef. Eh bien, que veux-tu? J'ai pensé, il se trouve que
quoi?
Il se trouve que je connais assez bien la côte Esquimaux. Il se trouve que j'ai pêché la baleine là-bas un été où l'or faisait défaut.
Ah, vieil aventurier! Eh bien, si tu as des fourmis dans les jambes, accompagne-le.
Mais à une condition. Tu me promets de ne plus fourrer ton grand nez dans une machine infernale. Et remercie le bon Dieu que Joseph Grumman soit d'excellente humeur aujourd'hui. Sinon, je te renvoyais balayer les hangars. Nous disons donc dans une demi-heure.
Ils volaient à 200 mètres et voyaient le Yukon se dérouler au-dessous d'eux comme un serpent géant. À l'horizon, la mer. Le vent était contraire et ils devaient compter un peu plus de 3 heures pour le trajet McGrath-Nom. Nels pouvait à peine tenir en place.
« Tu vois le Yukon, John. C'est le fleuve avec un grand F. Le fleuve des aventures, John. Des milliers et des milliers de chercheurs d'or ont navigué dessus. Le crâne bourré de rêves. Quelques-uns ont peut-être fait fortune. Mais la plupart, John, la plupart ont peiné à en crever. Les cimetières se succèdent le long des rives du Yukon. Beaucoup sont maintenant recouverts d'herbe. Sais-tu ce qu'on lit sur les croix, John? Sur presque toutes, le mot « inconnu ». C'est si facile de devenir un inconnu en Alaska. Nell s'essuya une petite larme dans le coin de son œil. Puis il continua. Toutes sortes d'hommes gisent là. Des Anglais, des Allemands, des Suédois, des Italiens, des Américains. Tous des hommes qui avaient le goût de l'aventure dans le sang. L'Alaska est la légion étrangère de l'aventure. Et le contrat est souvent signé à vie. Au-dessous d'eux, maintenant, la mer s'étendait, calme et d'un bleu profond. Au nord se dressaient les contours dentelés de la péninsule de Seward, S-E-W-A-R-D. Nome devait se trouver au pied de ces montagnes blanches. À l'ouest, la mer s'étendait, large et dégagée. Au loin, avec un peu d'imagination, on devinait la Sibérie. John entra en contact avec le terrain d'aviation de Nome.
NMD-6, NMD-6, puis-je atterrir? À vous! Nome à NMD-6, Nome à NMD-6, prêt pour atterrissage sur la piste 02, prêt pour atterrissage sur la piste 02, vent, etc. Nell s'écoutait avec intérêt.
Ah, ça sent le grand terrain d'aviation, dit-il en riant. Chez nous, à McGrath, on dit à peu près ceci. Mais la cafetière à sel, c'est John qui arrive.
Ça change. Pourquoi ne peut-on pas parler comme tout le monde quand on est dans un avion? Je n'arrive pas encore à comprendre.
Il survolait une toundra dénudée. Pas le moindre buisson. On sentait la proximité de l'océan Arctique. Par-ci, par-là, on voyait de petits monticules de gravier. C'étaient les restes des grands gisements d'or du début du siècle. Nome surgit. Ce n'était certes pas une grande ville, mais plutôt un ramassis de vieilles maisons délabrées, séparées par des rues ressemblant à des marécages. John aperçut quelques étranges colosses qui flottaient dans de grands fossés aux confins de la ville. On aurait dit des navires géants. Une longue tige sortait de chacun d'eux et crachait de la vase.
Nels, nom d'une pipe, qu'est-ce que c'est que ces horreurs?
Ce sont des gold dredges, des dragues avec lesquelles on aspire le sable d'or. Le sable est amené du côté poupe, transvasé dans des godets, lavé dans une dizaine de bains et ensuite rejeté à la proue. Durant cette opération, l'or qui se trouve dans le sable se dépose au fond de grands bacs. C'est simple.
Ça paraît au contraire bien compliqué, dit John.
Voilà donc la dernière trouvaille des chercheurs d'or.
Moi, je préfère 100 fois les bons vieux tamis. Tu n'es pas de mon avis, Nels?
Ah, tu peux en parler, toi, John. On voit que tu n'as jamais manié un tamis 12 à 15 heures par jour, le tournant et le retournant dans l'eau glacée, à en avoir les mains engourdies et le dos comme un poteau télégraphique. Et tout ça pour ne récolter finalement que quelques grains d'or gros comme des teintes d'épingle. À ce moment-là, il n'y a pas de bon vieux tamis, John.
Le terrain d'aviation était plus grand que la ville, Nome étant le terminus des voies aériennes américaines. À côté du DC-6 qui y était posé, le Junker ressemblait à un nain. « Hey, dis, John, si on avait eu celui-là à Kamtichna pour sauter lisse, le lac se serait vidé d'un seul coup. » Un homme grand et jovial, au visage rond, vint au-devant d'eux. C'était le docteur Turman, T-U-R-M-A-N, médecin départemental pour toute la côte Esquimau. Il arborait un chapeau à large bord. On aurait dit qu'il avait emporté le toit de sa maison en la quittant. « Soyez les bienvenus, dit-il en riant. C'est drôle que vous soyez deux. Ah, je vois, c'est vous qui avez été mêlé à cette histoire fantastique de Kamtichna. Je l'ai lu dans les journaux. Ah ben, je n'aurais donc rien à craindre. » « Nels Swanberg est un ancien pêcheur de baleines, dit John. Il connaît assez bien la côte. Il nous aidera à trouver notre chemin si c'est nécessaire. » « Parfait, dit le docteur. Nous partons d'abord vers le sud. Pastol Bay, P-A-S-T-O-N, plus loin B-A-Y, et Scammon Bay, S-C-A-2-M-O-N, plus loin B-A-Y. La côte est assez difficile, avec une infinité de criques, de rochers et d'écueils. Nous démarrerons de bonne heure demain matin. » « J'ai retenu des chambres pour vous à l'hôtel. Voici ma voiture. Sautez dedans, nous partons. » La soirée à Nome fut très tranquille. Ils rendirent visite à des Esquimaux qui sculptaient des statuettes dans des dents de morse, des petits gars tout ronds en costume de peau de phoque. Assis sur le sol de leur modeste cabane, ils travaillaient à la lumière de lampes à huile de phoque. L'odeur de l'huile qui brûle picotait les narines. Nel s'ébroua. « C'est une odeur que je reconnais. Un vieux souvenir du temps où je pêchais la baleine. Je croyais ne jamais pouvoir m'en débarrasser. Mes vêtements sont restés imprégnés toute une année. Ah, les gens pâlissaient à mon approche quand je suis revenu à Fairbanks. Mais c'était une odeur saine. Elle vaut bien celle de l'huile de foie de morue, John. » Le lendemain matin, ils se levèrent à 3 heures. Il y avait fort à faire à bord du Junker avant le départ. D'abord, placer les flotteurs, car depuis le retour de Kamtichna, on ne s'était plus servi que des roues. Le terrain d'atterrissage de Nome avait une piste spéciale qui descendait jusqu'au bord de l'eau. Ensuite, la carlingue. La transformer en salle de consultation n'était pas facile. Ils couvrirent les parois de contreplaqué et fixèrent 2 fauteuils contre le mur du fond. Un mécanicien riva au sol le brancard qui devait servir de table d'examen. Ils installèrent aussi des lampes plus fortes. 9 heures avaient à peine sonné quand ils terminèrent leurs préparatifs. Le docteur Turman était muet d'admiration. Il portait un confortable manteau de fourrure et poussait une voiture à bras, pleine de boîtes, d'instruments, de remèdes, de pansements, etc. Il y avait même un davier de dentiste. « Il faut être préparé à tout, dit-il gaiement. Dans un pays perdu où le médecin ne va que tous les 2 ans, il ne faut pas rester en plan. Nous voilà parés. » Nel Swanberg jeta un regard inquiet autour de lui. « Mais docteur, les infirmières, nous ne pouvons pas partir sans elles. » Le docteur pouffa de rire. « Cher monsieur Swanberg, je suis désolé. » Mais nous ne pouvons pas emmener d'infirmières. Elles sont indispensables ici, à l'hôpital. Si j'ai besoin d'un assistant, je compte sur vous. Quand on sait se débarrasser d'une machine infernale, on peut se tirer d'affaire dans toutes sortes de situations. Nels parut déçu. Pas même une gentille petite infirmière. Le monde est plein de désillusions. Le vent du sud s'était levé. Quand ils décollèrent à l'entrée du petit port de Nome, les vagues battaient contre les flotteurs. « Un temps de cochon !» grommela le docteur. « C'est toujours la même histoire quand je pars. Cet hiver, je suis resté bloqué par la neige dans une île du détroit de Bering, la petite Diomède. On ne voyait rien à 2 pas de la vitre. À peine distinguait-on l'hélice de l'appareil qui m'avait amené. Le climat est rude de ce côté-ci de l'Alaska. Les hivers atteignent la limite de la résistance humaine. Par 50 degrés en dessous de zéro, il vaut mieux ne pas mettre le nez dehors. « J'ai fait l'expérience de moins 55 une fois, » cria Nels pour couvrir le vrombissement des moteurs. Le docteur et lui s'était installé dans les fauteuils prévus pour les malades, tout au fond de la carlingue.
Moins 55, docteur, c'était à la frontière du Canada. Quand je plantais ma hache dans un morceau de bois, l'acier se fendait. Sur le marais, devant ma hutte, il y avait un élan debout, mort de froid, figé comme une statue. Quand je l'ai touché, il est tombé tout d'une pièce.
Ça, c'était du froid, docteur. Beaucoup de vieillards qui n'avaient plus la force d'alimenter leur feu moururent dans leur cabane.
La pluie tambourinait contre les vitres. Le Junker piquait du nez et se relevait au hasard des trous d'air. John maintenait une altitude de 150 mètres, de façon à voir au-dessous de lui les crêtes blanches des vagues. Le docteur s'approcha de la cabine du pilote.
Nous devrions peut-être faire demi-tour, dit-il. Je n'aime pas ce temps. Il y a tant de rochers et d'écueils à l'approche de la côte. Il sera difficile de repérer Quipac.
Quipak.
Le village est niché au fond d'une baie très étroite.
Pas de danger, docteur. Si le temps n'empire pas, tout ira bien. Je mets le cap sur la pointe de Kotlit. Kotlit. Nous y serons dans 1h20 compte tenu du vent contraire. Le docteur s'installa dans le fauteuil à côté du pilote.
Attachez votre ceinture de sûreté tout de même, dit John. Les coups de vent sont très capricieux, surtout près de la côte. On ne sait jamais quelles excentricités peut inventer un vieux Junker. Il n'est pas indiqué que le docteur arrive chez ses malades avec une grosse bosse sur le front.
Le docteur rit et serra sa ceinture. Le pilote paraissait sûr de lui malgré son jeune âge. Il faut bien qu'un pilote ait de l'assurance. C'est un peu comme un médecin. Sans cela, comment les passagers et les malades pourraient-ils avoir confiance?
Avant notre départ, j'ai prié le terrain d'aviation de contacter Quipak, dit le docteur.
Leur télégraphe n'est pas bien fameux, mais j'espère qu'ils vont y arriver. J'ai fixé la première consultation à midi. Il vaut mieux prévenir les Esquimaux. Ils aiment avoir le temps de réfléchir et de se découvrir des maladies. C'est parfois un véritable problème d'établir un diagnostic chez ces enfants de la nature.
Des gens aussi bien trempés peuvent-ils vraiment tomber malades, docteur?
Hélas, hélas. Avant l'arrivée de l'homme blanc, ils étaient parmi les peuples les plus sains de la terre. Mais ils n'ont opposé aucune résistance à nos maladies. La rougeole, la diphtérie, par exemple, se sont révélées catastrophiques pour les Esquimaux à une certaine époque. Il en mourut des milliers. Actuellement, c'est la tuberculose qui est le plus grand fléau pour eux. Ajoutons-y la longue liste des maladies du monde civilisé, le cancer, les rhumatismes, etc.
Il existe toutefois des Esquimaux bien portants et un Esquimau en bonne santé est supérieur au plus sain des autres hommes.
La silhouette sombre d'un rocher surgit du rideau de pluie. John regarda l'heure.
La pointe de Kotlit, dit-il. 1h17. Nous sommes en avance de 3 minutes.
Brave petit Junker, quand tu le veux, tu es formidable.
Le médecin rit. Un pilote bavarde-t-il toujours avec son avion comme si c'était un être vivant?
Mais docteur, dit John, un avion est un être vivant, une machine sans âme. Jamais je ne me risquerai à la piloter.
Ah, voici la baie. Il est temps de ralentir et de baisser les volets des ailes. J'amerris dans 4 à 5 minutes. Où donc est notre navigateur, lui qui a chassé la baleine dans ces parages?
Le docteur Tourman se retourna et éclata d'un rire sonore.
Il dort. Il navigue sur les eaux du rêve.
Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf. Troisième cassette, deuxième face, page 116.